میگن. Ardigan présente Pierre Bordage, Les guerriers du silence. Lu par Nicolas Planchet. Chapitre 1er. Nul ne sait comment les Skaïtes d'Hipponéros parvinrent à prendre une telle importance dans la vie de la planète Bella Syracusa, la reine des arts. Comment ils s'infiltrèrent dans l'entourage de la famille Hang, dynastie régnant sans discontinuer depuis 15 siècles standard. Comment ils s'emparèrent progressivement des postes de l'administration. Comment ils finirent par se rendre indispensables en créant les fonctions de détecteurs et de protecteurs de pensée. Comment, redoutés pour leurs extraordinaires facultés mentales, ils firent peu à peu régner la terreur. Qui étaient-ils? Nul ne connaissait Hipponéros, ni même n'avait jamais entendu parler de ce monde lointain, si lointain qu'il n'a peut-être existé que dans les imaginations. Pourtant, il advint que l'un de ces rejetons du nom de Paminx fut élevé à la dignité suprême de grand connétable, distinction réservée jusqu'alors au seul fils des grandes familles syracusaines. Cet événement eut lieu sous le règne du seigneur Argeti Hang. À l'époque, ils furent bien peu à s'en offusquer. Qu'étaient-ils donc devenus les fiers syracusains des temps de conquête? Des troncs creux? Des ombres? Ou encore les jouets de l'illusion? Malheur à celui par qui le scandale arrive. Extrait d'un texte mental apocryphe, capté lors de son errance par Messaoudin Djoupiet, poète syracusain de la première période post-Hang Empire. Certains érudits présument qu'il s'agit de pensées égarées de Naya Fikit, elle-même d'origine syracusaine. Visage enfoui dans le capuchon de son akaba bleu, le grand connétable Paminx surgit de l'obscurité et rejoignit le seigneur Antiang et le jeune Spergus qui attendaient en compagnie de leur protecteur de pensée sur la plateforme gravitationnelle immobilisée.
« Si monseigneur veut bien se donner la peine de me suivre, » fit-il en s'inclinant.
« Ce n'est pas trop tôt en vérité, » gronda Antiang. « Vous venez, Spergus !»
Suivis comme leurs ombres par les protecteurs, ils s'engagèrent dans une étroite et sombre galerie. Ils arrivèrent bientôt devant une antique et massive porte de bois, barrée d'énormes traverses métalliques. Au bout d'un moment, qui parut interminable à Spergus, les traverses glissèrent sur leurs coulisses scellées à l'intérieur de cavités murales. L'atmosphère humide et respirable de cet endroit incommodait le jeune Sgorite. Il avait la désagréable impression que les moisissures s'immisçaient dans chacun des pores de sa peau. La porte s'ouvrit sur un vaste balcon, éclairé par 2 bulles lumière flottantes et sur lequel se tenait un petit groupe d'hommes au visage dissimulé sous des masques blancs. 3 triangles entrecroisés, argentés, brillaient sur les plastrons rigides de leurs uniformes gris. Rantiang darda des yeux vipérins sur Paminx.
« Vous êtes le gardien suprême de la loi, monsieur le connétable. Par conséquent, vous n'ignorez pas que les mercenaires de Prithiv sont en situation illégale sur le sol de Syracusa. »
L'impatience encore contenue qui imprégnait sa voix risquait à tout instant de dégénérer en perte de contrôle.
« Faites-moi au moins la grâce de répondre. Était-il réellement nécessaire pour le bien public d'engager ces aventuriers ?»«
Vous comprendrez plus tard les raisons de leur présence en ces lieux, monseigneur, »
répondit Paminx d'un ton neutre. Le balcon surplombait une immense salle circulaire et nue, au centre de laquelle se dressait une silhouette figée, drapée dans les plis d'une akaba noire.
Cet endroit est sinistre, monseigneur. »
Spergus réprima un frisson. Le spectacle de cet être fantomatique, statufié sur le carrelage faiblement éclairé par des lampes eau souterraines, distillait un venin d'angoisse dans l'esprit du jeune et impressionnable Osgorite. Un parfum de mort flânait dans l'air confiné.
« C'est là un de vos fameux élèves, monsieur le connétable ?» demanda Rantiang.
Baming s'acquiesça d'un mouvement de tête.
« Ne puis-je voir son visage ?»«
Pas pour l'instant, monseigneur. Mais ce n'est pas par manque de respect envers vous. Le capuchon de son akaba recouvrira sa tête tant que durera l'expérience, pour empêcher que nos pensées ne se focalisent sur son image, ce qui risquerait d'affaiblir son potentiel psychique.
Grand Dieu ! Et il possède vraiment ce genre de pouvoir dont vous nous avez parlé ?
Famings ne releva pas l'incrédulité railleuse de Rantiang. Il extirpa des replis de son akaba un minuscule anneau d'octalium doré qu'il fit teinter avec un diapason de roche cristalline. Comme mu par le son prolongé, un pan du mur du fond s'escamota et libéra un flot de lumière crue. Trois nouvelles silhouettes se découpèrent dans l'encadrement. Deux mercenaires de Prithive et un homme dont les vêtements de toile grossière et brune exhalaient une odeur pestilentielle, presque animale. Les cendres de la terreur recouvraient sa face simiesque. Rantiang esquissa une moue de dégoût.
« Ne dirait-on pas un Mikat ?»«
Un Mikat du satellite Julius, monseigneur, » confirma Pamings. « Il a été classé à l'index et déclaré Raskata. J'ai pensé que, pour notre expérience... »
« À ce que je vois, ou plutôt, devrais-je dire, à ce que j'entends, vous êtes encore en train de vous justifier, monsieur le connétable, » persifia Rantiang. « D'ailleurs, ne passez-vous pas la majeure partie de votre temps à tenter de vous justifier ?»« De tout, et surtout de rien. »
Le rire clair de Spergus vint ponctuer les paroles du seigneur de Syracusa. L'Église creudienne considère que les Mikats sont pourvus d'une âme, plaida le connétable. Or le...
Hélas pour vous, monsieur, je ne suis pas Argeti Ang, mais son fils aîné,
coupa Rantiang d'un ton cassant.
Mon père a cru bon de vous nommer à ce poste de grande responsabilité, soit. Mais si conformément à la promesse qu'il m'a extorquée, je suis tenu de respecter son choix, en revanche, rien ne m'oblige à accorder de l'estime aux bénéficiaires de ce choix. Faites-moi donc la grâce de ne pas mêler l'église du Creutz à vos sordides intrigues. Après tout, ce Mikat n'est-il pas l'un de mes sujets? N'est-ce pas à moi et à moi seul de décider si sa vie vaut d'être sacrifiée pour l'intérêt commun?
Baming s'enfouit son dépit dans l'impassibilité de ses traits et s'inclina cérémonieusement. Le jour de la revanche approchait. Cette perspective l'aidait à faire mieux preuve de patience devant les vexations incessantes, les humiliations quotidiennes. Pendant ce temps, les deux mercenaires de Prithive avaient traîné le Mikat épouvanté à quelques pas de l'akaba immobile et noire.
« Spergus, » la voix de Rantiang s'était instantanément radoucie, « vous plairait-il de savoir ce que pense ce Mikat en ce moment précis ?»«
Cela... « me divertirait beaucoup, monseigneur, »
brenouilla le jeune Osgorite. Un pâle sourire affleura sur ses lèvres fardées. Il s'efforçait de masquer la frayeur intense que suscitait en lui ce lugubre caveau. La présence de Spergus contrariait Pamings. Le seigneur Rantiang avait cru bon de mêler son petit protégé à l'expérience capitale qui allait être perpétrée. Or, il n'était pas souhaitable d'introduire des éléments affectifs dans cette première tentative publique, qui requérait un environnement psychique neutre.
« Eh bien, monsieur, qu'attendez-vous pour révéler à notre cher Spergus ce qui se passe dans la tête de ce Mikat ? S'il s'y passe quelque chose, bien entendu. Est-ce la peur qui provoque cette intolérable pestilence ?»
Paming se fixa le Mikat dont les cheveux noirs et huileux étaient coupés à la mode traditionnelle du Mikatoun de Julius, très haut et droit sur la nuque et des tempes rasées. Sous leurs arcades sourcilières saillantes, Les yeux globuleux du pauvre homme voltigeaient comme des papillons affolés d'un point à l'autre de la salle. Du balcon à la silhouette noire menaçante, de la silhouette aux deux mercenaires de Prithive, anonymes sous leur masque blanc.
« Sa peau est toute noire, »
murmura Spergus.
« C'est parce qu'il travaille dehors chaque jour que Kreutz nous accorde en sa bonté, sous le rayonnement de l'astre de feu Akit, » expliqua Rantiang.
Le dégoût que lui inspirait cette créature d'un autre monde, d'un autre âge, montait en Spergus comme une nausée. Pourtant, il ne parvenait pas à détacher son regard de ce cou massif, de ses bras musculeux, de ses larges mains, de ses doigts courtois aux ongles maculés de terre. Les pensées folles, incontrôlées du jeune Osgorite perturbaient la concentration et parasitaient l'investigation mentale de Pamings. Les deux protecteurs affectés à la sécurité de Spergus s'avéraient apparemment incapables d'endiguer le flot désordonné de son mental. Le connétable décida de ne rien laisser paraître. Le moment était malvenu de jeter la suspicion sur l'efficacité des skaïtes. Car Pamings était, comme les protecteurs, un skaït d'Hyponeros, un paritol, et ses origines pouvaient remettre en cause l'immunité constitutionnelle que son rang était censé lui conférer. Le grand Argeti Hang avait dû étouffer la fronde des dignitaires syracusains pour l'imposer au poste de grand connétable, et sa position devenait de plus en plus précaire au fur et à mesure que le temps effaçait le souvenir du père de l'actuel seigneur. Pour l'instant, Pamings avait besoin de la caution de Ranti Hang. Elle garantissait l'apport financier nécessaire à la structure du grand projet, à l'accomplissement de l'œuvre immense et secrète dont ses maîtres, les maîtres gerbes de l'hyponériarcat, l'avaient chargée. L'occasion se présenterait bientôt de faire avaler au seigneur de Syracusa sa détestable morgue.
« Nous sommes en train d'attendre, monsieur. Auriez-vous abandonné vos prétendus pouvoirs dans une chambre des maisons closes de Salahun ? Vous n'êtes pas sexué, pourtant. »
Le rire espiègle de Spergus retentit une seconde fois.
La peur paralyse le potentiel mental du Mikat, finit par déclarer le connétable. Il est incapable d'émettre la moindre pensée cohérente. Je puis simplement vous révéler qu'il tente de se remémorer le visage et le corps d'une femme du Mikatoun. Sa propre femme, probablement.
La belle découverte que voilà, s'exclafa Rantiang. Nul besoin d'être instruit dans les sciences du cerveau pour deviner qu'il s'agit de sa femme.
Pourquoi dites-vous cela, monseigneur ?
Demanda ingénument Spergus. Le seigneur de Syracusa libéra un petit rire sarcastique.
Avant que Julius ne soit annexé à Syracusa, ces animaux de Mikat ne se mariaient pas et les femmes appartenaient à tous les hommes des communautés rurales. Depuis deux siècles, la loi et l'Église les obligent à prendre une seule épouse. C'est la première loi du code génético-moral régissant les satellites. Voilà pourquoi, monsieur le connétable, vous ne nous dévoilez pas des merveilles en nous affirmant que ce sous-humain pense à sa femme.
Imperturbable, Pamings ignora le persiflage de Rantiang et poursuivit.
Je vois également des visages d'enfants, trois garçons et deux filles.
Écrasé par l'importance des personnages qu'il observait depuis le balcon, effaré par les paroles du connétable, transcription fidèle des quelques images qui lui traversaient l'esprit, le Mikat poussa un hurlement de bête traquée et tomba à genoux sur le carrelage glacé.
« Il est doté d'un cerveau très grossier, » ajouta inutilement Pamings.
« S'il possède un esprit autant primaire que vous l'affirmez, monsieur, quelle sera la valeur de cette expérience appliquée à des intelligences supérieures ? Nous n'avons pas à nous encombrer de tout ce fatras de mauvaise sorcellerie pour mater le Mikatoun de Julius. Nos ancêtres s'en sont déjà chargés sans contrevenir aux préceptes de notre Église. »
Pamings réalisa tout à coup l'extrême fragilité de sa situation. Pris par ses multiples activités, il ne s'était pas arrêté aux nombreuses rumeurs de disgrâce qui avaient couru à son sujet. Il n'avait pas besoin de se glisser dans l'esprit de Rantiang, action sacrilège passible de la peine de mort, pour percevoir les intentions meurtrières contenues dans les modulations de sa voix. Le connétable avait mésestimé l'importance de la cabale orchestrée contre lui par Tiste d'Argolon, chantre réputé de la tradition syracusaine. Bien qu'il eût intercepté quelques pensées relatives à l'action souterraine de son rival syracusain, Bummings n'avait pas cru bon d'intervenir, estimant que la qualité de ses relations avec le grand Argeti Hang et l'ancienneté de ses états de service le plaçaient au-dessus des intrigues de palais. En l'occurrence, il avait fait preuve d'une légèreté inacceptable pour un skaït des échelons supérieurs, pour une antenne majeure. Cette imprudence compromettait le grand projet, le projet universel préparé durant des siècles par les maîtres germes d'Hyponeros. Sa marge de manœuvre s'était considérablement réduite. Désormais, l'édifice tout entier reposait sur la seule réussite de cette expérience.
« Eh bien, monsieur, ce n'est pas l'heure de rêvasser.
Mes élèves ne seront pas opérationnels dans l'immédiat, monseigneur, » argumenta le connétable. Cette démonstration n'est destinée qu'à vous instruire de leur progrès. Vous pourrez ainsi constater que le budget alloué à la recherche mentale, tant décrié par certains de vos conseillers, n'a pas été dilapidé. Plus tard, nous procéderons sur des cerveaux complexes, raffinés, et ce jusqu'à la parfaite maîtrise de la technique.
Qu'a donc fait ce Mikat pour avoir été classé à l'index et déclaré Raskata?
La voix fluette de Spergus contrastait de manière saisissante avec le timbre métallique vibrant du connétable.
« De grâce, monsieur, répondez-moi rapidement !»
L'irritation grandissante de Rantiang brisait peu à peu la digue fragile de son contrôle mental. Il éprouvait les pires difficultés à se conformer aux rigoureux codes courtisans des émotions en usage à la cour de Syracusa. Bummings ne se départit pas de son calme, et puisa une nouvelle source de motivation dans le courroux de son auguste interlocuteur.
« Puis-je vous demander de bien vouloir patienter un instant, monseigneur? Les données de Raskatas enregistrées sur vos territoires sont confiées au Skait Markiat, archiviste de justice. Le temps d'entrer en contact avec lui.
« Faites vite, monsieur. Nous avons hâte de nous retourner à la lumière du jour. » Nous avons l'impression d'être des rats croupissants en quelque sordide égout.
De lourdes paupières verdâtres, sillonnées de vénules sombres, tombèrent sur les yeux uniformément jaunes de Bummings. Le capuchon de son akaba s'abaissa sur ses épaules, découvrant une face difforme, un crâne allongé et glabre, une peau rugueuse craquelée. Il ressemblait au monstre des légendes osgorites, du moins à l'idée que s'en faisait Spergus. Des frissons coururent sur le dos du jeune osgorite. Le disque empourpré de ronde lune rouque transperça la brume de ses souvenirs. L'espace d'un bref instant, il se transporta sur Osgore, la mer industrielle, le plus grand des satellites de Syracusa. Il courut nu et libre entre les herbes sèches et les pierres brûlantes des jardins à l'abandon, poursuivi par les formes brunes joyeuses et bruyantes qui dansaient dans les effluves de chaleur. Il huma le parfum capiteux des boucanas en fleurs, le suc enivrant des fontaines fruitières. Il se sentit soudain à l'étroit dans son col encore, le sous-vêtement usuel des Syracusains, cette seconde peau qui les recouvrait de la tête aux pieds. Son cache-tête mauve, ceint d'un bandeau lumineux, lui comprimait les cheveux, le front, les joues et le menton. Ses deux mèches blondes et tressées, seule fantaisie autorisée, s'échappait du liséré à hauteur de ses tempes et encadrait son visage efféminé. L'épiderme de Spergus réclamait avec frénésie les caresses ardentes de ronde lune rouque. Reprenant empire sur lui-même, il refoula rageusement la mélancolie qui le gagnait. Il n'avait pas le droit au regret, lui, le fils d'humble commerçant osgorite, traité avec davantage d'égard que les grands courtisans, que les descendants d'anciennes et illustres familles syracusaines. Même si cette faveur se transformait parfois en lourd fardeau, même s'il lui fallait endurer les regards et les mots blessants de Dame Sibrit, l'épouse de Rantiang, même s'il n'était guère à son aise au milieu des perpétuelles et basses intrigues de la cour, même si on ne l'autorisait plus à se déplacer sans ses protecteurs de pensée, enfouis dans les akabas rouges et blancs de la protection seigneuriale, ombre omniprésente, silencieuse et intrigante, il s'efforçait de bannir impitoyablement de son esprit toute évocation nostalgique de son enfance. Il acceptait les obligations et les désagréments de la cour pour l'amour de son seigneur, pour l'amour du maître absolu de la plus renommée des planètes de la Confédération de Naflin, pour l'amour de ce centenaire aux traits d'une extraordinaire finesse, aux yeux d'un bleu limpide, aux somptueuses mèches gris-bleu reposant sur l'étoffe moirée de son cache-tête, pour l'amour d'un homme qui était l'expression vivante de la noblesse, de la grâce et du goût, vertu cardinale de l'étiquette et de la tradition syracusaine. Des convulsions spasmodiques agitaient le Mikat. Les claquements réguliers de ses genoux sur le carrelage troublaient le silence devenu oppressant. « C'est un adepte des religions de l'index, » dit soudain Pamings en se tournant vers Spergus. Surpris, le jeune Osgorite tressaillit. Il ne put soutenir le regard à la fois acéré et insondable du connétable. Les pouvoirs télépathiques des Skaïtes, et particulièrement ceux de Pamings, le terrifiaient. Un réflexe instinctif le poussa à se retourner, à se raccrocher à la présence rassurante de ses protecteurs de pensée.
« Des foyers d'abomination !» gronda Rantiang, « qu'il faudrait étouffer une fois pour toutes !»
Les doigts effilés, cerclés de bagues d'optalium blanc du seigneur de Syracusa, jouaient nerveusement avec la mèche argentée qui longeait le liséré noir de son cache-tête. Un tic annonciateur d'une imminente perte de contrôle.
« Ce Mikat est un membre de l'hérésie Goudourayam, » précisa Pamings, « un adorateur de l'effigie du Goudour, faux prophète brûlé il y a de cela 300 années standard sur croix de feu, vénéré comme un martyr.
Des animaux, des fanatiques imbéciles qui n'hésitent pas à recourir au sacrifice humain. »
« Et où se cache-t-il ? » demanda Spergus que ses précisions semblaient captiver.
Cette intervention eut pour conséquence imprévue de désamorcer la colère de Rantiang.
« Figurez-vous, mon ami, qu'on en trouve sur Syracusa même, dans les montagnes de Taeing et en Mesgomi, des contrées difficiles d'accès d'où il n'est pas aisé de les déloger. Toutefois, c'est sur Julius que l'hérésie Goudarayam est la plus répandue, bien que le nombre de ses adeptes ait sensiblement diminué depuis l'intensification des représailles et la multiplication des croix de feu. »
« Deux détails, si vous me permettez, monseigneur, » réfléchit le connétable. « Le premier, c'est que les parents de ce Mikat ont eux-mêmes été brûlés sur croix de feu lors du passage sur Julius de votre père, le seigneur Argetiang. Le second, plus pittoresque, c'est que la personne qui l'a dénoncé n'est autre que sa propre femme, celle dont il évoque en ce moment même le souvenir. » Et ceci pour la dérisoire somme de 200 quelis juliens, l'équivalent d'une poignée d'unités standard. Cet insignifiant pécule s'est avéré plus attrayant que l'amour du mari.
Rantiang se fendit d'une ébauche de sourire, frappé de plein fouet par les paroles de Pamings, crucifié par cette dernière et hideuse révélation. Le Mikat allongé sur le carrelage prostré avait cessé de trembler. De grosses larmes roulaient sur ses joues qu'ombrait une barbe naissante.
« Mais il pleure. Vous avez vu, monseigneur ? Il pleure. »
« Oui, mon ami, il pleure, » railla Rantiang. « Il ne dispose pas comme vous, comme moi, du contrôle de la raison. C'est ainsi que certaines créatures manifestent leurs émotions, aussi invraisemblables que cela puisse paraître. »
Spergus s'était penché au-dessus du solide garde-corps entourant le balcon. Yeux grands ouverts, il tentait de contempler de plus près les rigoles scintillantes qui s'écoulaient des orbites du Mikat. Sur un signe discret du connétable, le Skaïta Lakaba noir s'approcha du corps affaissé. Au cœur du profond capuchon, Spergus entrevit fugitivement deux lueurs d'un rouge flamboyant chargé d'énergie. Deux étoiles maléfiques dans un ciel d'encre.
« Nous sommes prêts, monseigneur. »«
Prêts, mais à quoi, grand Dieu ?»
Alarmé, le Mikat releva la tête. À la vue de l'étoffe rêche et noire toute proche, si proche qu'elle l'effleurait, ses yeux se dilatèrent de terreur. Des violents soubresauts agitèrent ses bras et ses jambes écartées.
« Grand prodige, en vérité !» ironisa Rantiang. Ne me dites pas que vous avez préparé cette grandiose mise en scène dans l'unique but de terroriser un cutéreux.
Si Monseigneur veut bien s'armer d'un peu de patience.
Un doute pernicieux s'infiltrait dans l'esprit du connétable, l'empoison dont il ne parvenait pas à endiguer la propagation. Il avait pourtant choisi Harcott, le skaït expérimentateur, avec méticulosité, parmi une centaine de postulants triés sur le volet, tous dotés de remarquables facultés mentales. Il avait lui-même supervisé l'entraînement de l'élève sélectionné, multiplié les essais sur les animaux, puis sur les mi-hommes bêtes du guetta blanc. En revanche, il n'avait pas eu le temps de s'attaquer au cerveau complexe, supérieur dans l'échelle de l'évolution. Il y avait donc risque d'échec. Or, Pamings n'avait plus le droit à l'échec. Il regretta cette précipitation qui n'était pas dans sa manière habituelle, mais que la course de vitesse engagée entre ses innombrables détracteurs et ses rares partisans avait rendu inévitable. Un gargouillis plaintif s'échappa de la gorge du Mikat. Des filets de bave grise s'écoulaient des commissures de ses lèvres et dégoulinaient sur son menton légèrement prognate.
« Je vous demande de bien vouloir observer un silence total, » chuchota le connétable qui enregistrait avec soulagement les premiers symptômes de l'action mentale du skaït expérimentateur.
Progressivement, les convulsions du Mikat s'espacèrent. Sa respiration devint haletante, sifflante. Il porta instinctivement ses grosses mains à son cou, puis en un sursaut désespéré, il tenta d'agripper un pan de la cabane noire, mais ses doigts recroquevillés ne happèrent que le vide. Un râle d'agonie, un ultime spasme, il retomba inerte sur le carrelage. Un silence mortel ensevelit la salle. Ce fut Spergus, toujours penché au-dessus du garde-corps, qui le rompit en premier.
« Que... qu'est-il arrivé au Mikat ? Il ne bouge plus. »
Il est mort, répondit Pamings, détachant bien ses mots pour souligner leur terrible simplicité.
Mort?
Mort, monseigneur.
Comment est-ce possible?
Rasséréné, le connétable prit un plaisir pervers à aiguiser la curiosité de ses interlocuteurs. Il marqua un long temps de pause avant de répondre.
Ce Mikat a été tué par le seul levier de la volonté d'Harcott, notre skaït expérimentateur. Vous venez d'assister à la première exécution mentale, monseigneur.
Il avait prononcé ces mots d'une voix indifférente, comme s'il évoquait un événement banal, anodin. Le skaït à la cabane noire esquissa une courbette déférente, à laquelle Rantiang répondit d'un bref signe de tête.
« Espérez-vous nous faire accroire pareille absurdité, monsieur ?»«
La croyance n'est pas admise dans mes laboratoires, monseigneur. Je la laisse à notre sainte Église. Pour le scientifique que j'essaie d'être, seul compte les certitudes. Harcott vient en quelque sorte de faire imploser le cerveau de ce cobaye. »«
Vous voulez dire qu'il peut tuer à distance par la pensée ?»
balbutia Spergus d'une voix blanche.
À condition, pour l'instant, que cette distance ne soit pas trop importante. Des interférences de pensée parasites peuvent amoindrir, voire annihiler l'efficacité des intentions mentales de mort. Mais disons qu'Harcott a effectivement, et pour reprendre votre expression, tué à distance, sans le concours d'une arme. Actuellement, bien sûr, ce procédé n'est efficient que sur les cerveaux de type primaire, comme celui de ce Mikat. Cependant, nous ne désespérons pas d'être rapidement opérationnels sur des cerveaux plus évolués, et même très évolués.
Le connétable avait recouvré son assurance et sa sérénité, malgré les protecteurs, spectres blancs et rouges chargés de maintenir les écrans psychiques. Il captait les éclats bruts des sentiments de Rantiang, et n'y décelait plus une trace de ressentiment. Les perspectives ouvertes par l'extraordinaire expérience perpétrée sous ses yeux occupaient entièrement l'esprit du seigneur de Syracusa.
« Et tous les skaïtes ont cette capacité ?»«
Uniquement ceux qui possèdent des facultés mentales au-dessus de la norme. »«
C'est de la sorcellerie !»
lança Rantiang. Il avait proféré cette accusation sans conviction,
comme s'il en avait déjà deviné la réponse.
« Vous n'aurez rien à craindre du moufti de l'église du Kreutz, monseigneur. Ces techniques sont, je vous le répète, scientifiques, élaborées par des physiciens spécialisés dans le domaine des ondes subtiles, et non par quelques sorciers de village. La sorcellerie est synonyme de pratiques empiriques, subjectives, obscures, à l'exact opposé de notre technologie qui, elle, reste objective, démontrable, vérifiable. D'ailleurs, si tel est votre souhait, monseigneur, nos chercheurs se feront un plaisir de vous expliquer dans le détail les mécanismes mentaux utilisés par nos élèves. Il est donc hors de question.
Le ton du connétable était très ferme.
Que notre sainte église classe les futurs tueurs mentaux à l'index. Il va sans dire que nous ne vous aurions pas présenté cette nouveauté si elle s'était trouvée contraire aux principes kreutziens.
Cummings ne prenait pas beaucoup de risques en pariant sur le soutien du clergé. Il y avait bien longtemps que Barofil le 24e, le moufti de l'église du Kreutz, était informé de ce qui se tramait dans le laboratoire secret du connétable.
« J'aimerais que vous nous parliez de ces techniques, monsieur, » suggéra Spergus.
« Je crains quelque peu de vous ennuyer avec ces choses-là, »
répliqua Cummings, qui ne dédaigna pas l'occasion de prendre une petite revanche immédiate en sachant se faire prier.
« Allons, monsieur, accédez à la requête de notre cher Spergus, » intervint Rantiang d'un ton côteleux toute griffe rentrée.
Tout en évitant de le montrer, Cummings exultait. Les conséquences de son imprévoyance auraient pu être fatales à l'accomplissement du projet, mais il était parvenu à retourner la situation comme l'attestait le changement d'attitude et de ton de Rantiang. Il venait de gagner l'essentiel, c'est-à-dire du temps. De plus, il tenait désormais le courtisantiste d'Argolon et ses affidés dans le creux de sa main, et cette perspective l'emplissait d'une jubilation sans bornes.
Ces techniques sont tirées d'une science oubliée, datant de plusieurs millénaires avant Naflin. La seule science antique qui se soit intéressée aux potentialités du cerveau. La science indique, dont nous avons retrouvé la trace sur Terra Mater, une toute petite planète d'un système à un soleil, située sur les bords de la Voie lactée. Il semble d'ailleurs, aussi étonnant que cela puisse paraître, que la science indique soit originaire de Terra Mater. Pour résumer brièvement, deux ethnologues skaïtes apprirent par hasard que les hymnes religions d'une peuplade de Terra Mater, les Amerines, étaient chantés en dialecte indique, et ce, bien que cette langue vernaculaire ne soit plus parlée depuis 6000 années standard. Nos ethnologues se rendirent donc sur Terra Mater, où ils constatèrent l'étrange phénomène suivant. Les hymnes semblaient avoir des répercussions géoclimatiques sur l'environnement, déclenchant des bouleversements saisonniers, de brusques chutes de neige en été, par exemple. C'est en systématisant leur observation qu'on découvrit les stupéfiantes propriétés de certains sons indiques, appelés uctras ou antras.
Pour l'amour du ciel, venez-en au fait!
S'exclama Rantiang, qui avait remarqué que Spergus avait complètement décroché. Lui-même avait hâte de se soustraire à l'ambiance macabre de ce sous-sol.
« J'y viens, monseigneur. Il était nécessaire de poser ces quelques jalons afin de faciliter votre compréhension et celle du sieur Spergus. Nous nous sommes rapidement rendus compte que les Amerines employaient des sons précis pour les sacrifices rituels d'animaux, ou les châtiments réservés à ceux qui enfreignaient la loi. Un exemple concret, l'adultère. Le ou la coupable, ou encore les deux ensemble, sont attachés au centre d'un cercle sacré. Quatre enfans, les prêtres amerines, assis aux quatre points cardinaux, entonnent le chant de mort, une succession d'uctras qui finit par provoquer d'irréparables lésions dans le cerveau et entraîne la mort en quelques minutes. Mais l'un de nos physiciens a récemment découvert que ces mêmes uctras s'avèrent plus efficaces, plus puissants, lorsqu'ils sont émis à un niveau subtil.
Spergus prêtait de nouveau une attention soutenue aux explications du connétable. Nous avons basé notre travail sur le théorème suivant. La puissance de destruction des Uctras Syndic est subordonnée à la qualité de silence dans lequel ils sont émis. Les Amerines ont peu à peu oublié ce principe fondamental. Au lieu d'intérioriser les Uctras, ils les extériorisent par le chant et diminuent ainsi leur pouvoir. L'une des qualités essentielles des Skaïtes d'Hyponeros est de descendre à des niveaux de silence intérieur que ne peuvent atteindre les autres vivants de l'univers. Des esprits excités, superficiels, ne sauraient utiliser les Uctras de manière correcte. En revanche, nos élèves, entraînés dans le plus grand secret, d'où la présence désagréable mais indispensable des mercenaires de Prytiv, sont parvenus à les maîtriser, en stabilisant des états apaisés de conscience. Ils se sont d'abord exercés sur des cerveaux embryonnaires, puis sur des mammifères, sur des mi-hommes bêtes du guetta blanc, et enfin sur ce mi-cat. À propos, je vous prierai de bien vouloir dissiper l'inquiétude de certains missionnaires creudiens du satellite guetta blanc. Nous avons dû...
Déjà des problèmes avec l'Église, monsieur, coupa Rantiang. Je croyais que ces expériences avaient été tenues dans le plus grand secret. J'ose l'espérer d'ailleurs, car si les autres États membres de la Confédération apprenaient que vous avez utilisé les services de mercenaires de Prytiv, nous n'aurions plus aucun crédit lors de la prochaine Asma des Sigor.
L'assemblée quinquennale n'aura pas lieu, comme prévu sur la planète Isigor.
Comment et pourquoi?
Les yeux jaunes du connétable se fichèrent dans ceux de Spergus.
Je vous expliquerai plus tard, monseigneur, en privé. Pour disposer de cobayes en nombre suffisant, nous avons dû promettre aux missionnaires que nous leur rendrions ces mi-hommes bêtes sains et saufs. Or...
Pieux mensonge, mais mensonge, monsieur,
déclama Rantiang, tournant en dérision le ton grandiloquent des gens d'église.
J'ai pensé que pour le bien de...
Ne pensez plus de grâce. Ces expériences avaient pour noble but de servir la science, n'est-ce pas? Et le fait que quelques mi-hommes bêtes ont disparu dans l'aventure ne heurte pas nos convictions chrétiennes. J'arrangerai cela avec le moufti barophile. N'en suis-je pas, après tout, le protecteur attitré et l'ami personnel? Mais êtes-vous absolument certain que personne n'a été instruit de vos expériences?
Absolument certain. Le seul individu capable de nous contrarier a été banni de Syracusa, par vos soins, monseigneur.
Par mes soins?
Je pense que vous gardez à la mémoire le procès de Srimitsu le Smella.
Srimitsu? Quel rapport avec tout ceci?
Bien qu'il déployât toutes les ressources de son contrôle mental pour ne pas le laisser paraître, Rantiang répugnait visiblement à évoquer ce souvenir.
Il y en a un, monseigneur, répondit Pamings, à qui cette gêne presque palpable, il en connaissait parfaitement la cause, n'avait pas échappé. La science indique à traverser l'espace et le temps, et il en existe encore trois grands maîtres vivants. Srimitsu est l'un d'eux.
Nous l'aurions su, protesta Rantiang. Srimitsu a toujours refusé la protection mentale. Nos inquisiteurs lisaient en lui aussi facilement que dans un livre lumière.
Ses exceptionnelles facultés psychiques développées par la pratique de la science indique le dispensait de protection, monseigneur. Ajoutée à son appartenance à la congrégation des Smella, elle se serait sans doute avérée néfaste à nos projets. C'est pour cette raison, pour celle-là seule, que j'ai tant insisté auprès de vous et de sa sainteté le Moufti, pour qu'on lui intentât un retentissant procès public. L'accusation portée contre lui, pratique sexuelle contre nature, n'était qu'un prétexte, comme vous l'avez sûrement deviné. Il fallait impérativement l'éloigner. Ma foi, tout s'est déroulé selon nos prévisions. Son aura de Smella, son influence auprès des États membres, l'estime générale dont il jouissait, tous ces éléments se sont retournés contre lui lors du procès, et il a été condamné au bannissement perpétuel.
Pourquoi m'avoir caché ces vraies raisons, monsieur? Avez-vous donc si peu d'estime pour moi?
Une légère amertume imprégnait la voix de Rantiang, Bamings s'abstint de dévoiler le mépris dans lequel il tenait le seigneur de Syracusa, qu'il jugeait superficiel, frivole, inconsistant, incapable de gérer l'héritage que lui avait légué le grand Argetiang. En coulisses, le connétable œuvrait pour une succession plus expéditive que celle prévue par la tradition syracusaine.
« Je ne tenais pas à surcharger votre emploi du temps, monseigneur. »
« Quels sont les deux autres maîtres de cette science indique ?» demanda Spergus. « Vous nous avez dit qu'il y en avait trois, et pour l'instant, nous n'en connaissons qu'un seul. »
« Un autre syracusain, Sri Alexou, un homme discret qu'on ne voit jamais à la cour. Il vit pourtant ici même, près de Vénitia. Il ne s'occupe pas des affaires de l'État. On ne lui connaît que deux passions. Sa fille, une jeune beauté du nom d'Afikite, et les fleurs. Nous le surveillons en permanence.
Et le troisième ?
L'insistance du jeune Osgorite troubla le connétable. N'avait-il sous-estimé le rôle du favori du seigneur de Syracusa ? Cette désarmante naïveté dissimulait peut-être des intentions précises, calculées.
Le Mahdi Sekoram.
Rantiang laissa échapper une exclamation de surprise. Manifestation déplacée, indécente, contraire au code courtisan des émotions.
« Grand Dieu ! Vous rendez-vous bien compte de qui vous parlez, monsieur ?»«
Pourquoi ? Qui est-ce ? Qu'est-ce qu'il a fait ?»«
Le grand maître de l'ordre Apsurat. Mais veuillez vous rassurer, Sieur Spergus. Nous avons veillé à aiguiller les chevaliers Apsurat infiltrés sur de fausses pistes. » Et nous épluchons sans trêve leur rapport.
Soit, cependant, s'attaquer à l'ordre Apsurat, c'est s'attaquer au fondement même de la Confédération de Naflin,
objecta Rantiang.
La chevalerie s'est consacrée pendant des siècles à l'étude des arts de la guerre. Aucun seigneur, si puissant soit-il, n'aurait l'inconscience de la défier. Avez-vous perdu la raison, monsieur ?
L'ordre ne sait rien de l'arme que nous préparons, monseigneur.
Bamings se figea subitement dans une attitude solennelle.
Monseigneur, le temps est venu de réaliser le rêve visionnaire de votre père. Toutes les conjonctures sont favorables. L'armée confédérale, l'Interlice, est actuellement commandée par votre frère Menati, et ce jusqu'à la prochaine Asma quinquennale, qui, nous sommes en train d'y pourvoir, se déroulera sur Syracusa. Et non sur Isigor. Conformément à nos conseils, Menati est parvenu à rallier les officiers supérieurs à notre cause contre promesse de titres et concessions territoriales. Les mercenaires de Pritiv sont disposés à nous accorder un appui sans réserve, tant ils sont désireux d'en découdre avec l'ordre Apsurat, d'où leurs fondateurs, des chevaliers dissidents, sont très anciennement issus. L'église du Kreutz est en pleine expansion grâce à l'inlassable activité des missionnaires dans les coins les plus reculés de la Confédération. Avec les croix de feu et les inquisiteurs mentaux, elle constitue d'ores et déjà un formidable appareil répressif. Il ne nous manquait plus qu'une chose, monseigneur, et cette chose, vous venez de la voir concrétisée sous vos yeux.
Il se tut et observa les effets de ses paroles sur ses interlocuteurs. Spergus, bouche bée, yeux écarquillés, ressemblait à un mannequin holographique des musées près Naflin. Seuls étaient animées ses deux mèches blondes dans lesquelles folâtrait d'imperceptibles souffles d'air. Le jeune et exubérant Osgorite, victime de sa curiosité et des sentiments de Rantiang, en savait désormais beaucoup trop. Qu'il jouât un double rôle ou non, il représentait un danger. La roue du destin, la rota individua des Kreutziens, s'arrêterait très prochainement de tourner. Quant au seigneur de Syracusa, il frottait distraitement ses lèvres de l'index de sa main droite. Ses yeux bleus s'égaraient sur le cadavre du Mikat et sur la cabane noire de son bourreau. Les gemmes éphémères serties par dizaines dans la longue cape pourpre recouvrant son col en corps blanc lançaient des éclats vifs et fugaces.
« À présent, nous devons agir très vite, » reprit le connétable. « Éliminer définitivement Srimitsu
encore dangereux malgré son exil. Les mercenaires de Prithiv s'en chargeront. Éliminez également Sri Alexou et sa fille, dont l'aspect inoffensif n'est probablement destiné qu'à nous leurrer. Usez de votre pouvoir discrétionnaire, monseigneur, pour obtenir les crédits supplémentaires qui nous permettront de peaufiner la technologie de la mort mentale. Puis, défiez l'ordre Absurat et faire disparaître en même temps que ce vestige obsolète de la Confédération toute trace de la civilisation indique. Afin de nous entourer de toutes les garanties, il serait également opportun de réduire définitivement les amerines de Terra Mater au silence.
Songez, monsieur, que si ce génocide, car vous me parlez bien d'un génocide, s'ébruitait, nous serions directement sous la menace de la chevalerie Absurat,
se récria Rantiang.
Et il s'ébruitera, car les principaux états membres ont des yeux et des oreilles partout.
Il nous faut apprendre à ne plus considérer l'ordre comme un obstacle insurmontable. Nos chances de succès reposent sur la vitesse et la précision, sur l'effet de surprise. Nous n'attendons plus que votre accord formel, monseigneur. Il ne tient qu'à vous de devenir le premier souverain d'un empire post-Naflin. Il pensa simultanément que jamais Rantiang ne jouirait de ce privilège. Dans la cinquième phase du grand projet, les maîtres d'Hyponeros avaient prévu l'éclatement de la Confédération de Naflin et l'avènement d'un tyran éclairé, d'un rassembleur, un homme d'une toute autre envergure que celle de l'actuel seigneur de Syracusa. Les quatre skaïds protecteurs avaient relâché leur vigilance. La lumière de leurs yeux mi-clos émergeant de la pénombre des capuchons rouges et blancs avait baissé d'intensité. Il violait la première loi du traité de l'honorable éthique de la protection. À tout moment du jour et de la nuit, serait gardien zélé de l'esprit de Monseigneur, car lui seul a droit de suivre le cours intime de ses pensées. Pamings, à qui cette inattention n'avait pas échappé, aurait pu se glisser à l'instant dans l'esprit de Rantiang, momentanément privé de ses paravents. Il préféra attendre que ses complanétaires se rendent eux-mêmes compte de leur impardonnable négligence. En ce jour, le connétable n'exigerait pas de tête supplémentaire. Les plus importantes allaient bientôt rouler à ses pieds, et cette perspective suffisait largement à le contenter. « Monseigneur, j'aimerais vous entretenir de la suite de notre entreprise. » dit-il doucement, comme pour ne pas tirer trop brutalement Rantiang de son rêve éveillé. Dispensez donc le sieur Spergus de cette pénible corvée. Renvoyez-le en un lieu plus conforme aux préoccupations de son jeune âge. Sans attendre la réponse de Rantiang, ni accorder la moindre attention au regard assassin de Spergus, il s'engagea d'un pas résolu dans le sombre couloir souterrain.